France Inter, le 18-20.
Et à 19h20, c'est quoi être de droite aujourd'hui? C'est peut-être parce que c'est la première question qu'il fallait se poser il y a 2 ans, lors de la défaite de François Fillon au premier tour, que la droite en est là où elle en est aujourd'hui. À qui on parle? Qu'est-ce qu'on dit? Quel est notre rapport au pouvoir en place? Quelle est notre place, nous, dans la politique aujourd'hui? Toutes ces questions ont été éludées, apparemment. Elles finissent avec un score qui n'atteint pas donc les 9% aux européennes. Elles finissent aussi avec un vent de panique, des presque états généraux à venir, des discussions à huis clos mardi, un rendez-vous autour de Gérard Larcher, un texte signé aujourd'hui par des jeunes républicains qui veulent faire un comité du renouvellement et parlent même d'ultimatum. C'est peu dire que la droite est en crise. Seuls 34% des électeurs de François Fillon ont voté pour François-Xavier Bellamy. Le reste a déserté pour La République En Marche et aussi pour le Rassemblement National. Alors faut-il tout reprendre à zéro? Une refondation, j'allais dire, on adore le terme de refondation en politique. À qui faut-il réellement s'adresser? Qui doit prendre le problème à bras-le-corps? Est-ce qu'elle peut disparaître, la droite française? C'est le sujet du jour. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Le téléphone sonne.
Ah ben, notre auditrice a disparu, donc je vais commencer toute seule. Et bonsoir à tous. Tiens, j'en profite pour vous saluer les uns ou les autres. Françoise Fressoz est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, éditorialiste, au Monde. Bonsoir Jérôme Jaffré.
Bonsoir.
Directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, le CECOP. Et puis Karine Bécard, bonsoir.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. Est-ce qu'on va trop loin quand on se demande si la droite peut disparaître? Est-ce qu'on peut être un mouvement qui, en tout cas sous sa forme actuelle, on va dire, Françoise Fressoz, qui disparaît corps et bien?
Je pense qu'on peut dire, en tout cas, que c'est un mouvement qui peut se marginaliser, c'est-à-dire qui peut se retrouver rétréci, en une sorte d'appoint, alors que ça a été un des partis pivots de la Ve République. Et on peut le dire parce que je pense qu'il y a eu un pari à cette élection qui a été perdu par Laurent Wauquiez. Le pari, c'était de se dire, bon, les européennes, ça ne va pas être très favorable, mais on va au moins essayer de préserver une partie du socle qu'avait constitué François Fillon. C'était le choix de François-Xavier Bellamy, qui était à la fois sur cette droite conservatrice et catholique, mais qui a apporté un certain renouveau. Et au fond, Laurent Wauquiez se disait, si je fais 13-14%, j'ai un socle pour démarrer peut-être des municipales qui seront un peu plus favorables, et puis me poser peut-être en alternative à un Emmanuel Macron qui devait de toute façon chuter. Ce qui me frappe, moi, dans ces calculs-là, c'était l'idée qu'au fond, il y aurait une alternance naturelle parce que Emmanuel Macron allait s'en mêler les pieds comme il l'avait fait avec l'histoire des Gilets jaunes et qu'il suffisait d'attendre et d'attendre dans une posture qui était au fond assez conservatrice.
Donc c'est de la vieille politique en fait, ce que vous êtes en train de nous décrire.
Ouais. Et je pense que ça a été un aveuglement entretenu d'ailleurs par les sondeurs puisque au fond à 13% il était très heureux Laurent Wauquiez. Et la chute c'est de se retrouver de 13 à 8% et de se dire finalement non, je suis peut-être déjà mangé par le macronisme.
Jérôme Jaffré, à quel moment cette droite-là ne voit pas venir, en fait, j'allais dire la catastrophe? À quel moment elle ne voit pas descendre, surtout le 13 à 8, à votre avis?
Dimanche soir, très franchement. Et Françoise Fressoz a raison, c'est le choc. C'est le choc, et le choc il est ailleurs même. C'est quand la droite s'est mise à regarder les résultats commune par commune. Alors là, elle est tombée de l'armoire. Parce que la droite, elle a des fiefs dans le pays. Elle existe, la droite. Les électeurs de droite, ils existent toujours, les électeurs de droite. Faut pas croire que la droite disparaît comme ça, complètement magique. La droite, il y a un parti, le parti va très mal. Il y a des électeurs, les électeurs existent. Alors on regarde Neuilly-sur-Seine, ça parle. Le Vésinet, Ville d'Avray, tout ça a voté la liste En Marche à fond, à fond les ballons. Et pas seulement parce qu'ils avaient peur du Front National arrive en tête. Faut pas nous raconter d'histoire. Pour des Européennes, ça n'a pas une importance décisive. C'est pas un second tour de présidentiel. Vous dites pas Marine Le Pen va gouverner le pays demain. Donc c'est pas la peur du Rassemblement National qui a conduit ses électeurs à voter massivement pour En Marche. Et la liste Loiseau, qui n'avait rien d'emballant, la liste Loiseau a priori, c'est tout simplement que ses électeurs trouvent que la politique que mène Emmanuel Macron leur convient assez bien. Point final, c'est aussi simple que ça, car s'il trouvait que la politique d'Emmanuel Macron était pas bonne du tout, vous auriez pas 48% des voix à Neuilly, à Neuilly-sur-Seine, le fief absolu de la droite, là où Fillon, au premier tour de la présidentielle, faisait 58% des suffrages.
Karine Becker, je vous vois faire, oui, enfin pas tout à fait quand même.
Non, je suis pas entièrement d'accord, même si je suis toujours d'accord avec ce que dit Jérôme Jaffré, mais non, il y a quand même aussi une part de cet électorat de droite a voulu être efficace. C'est-à-dire, pas question d'aller donner quelques voix et on sait pas jusqu'à combien à François-Xavier Bellamy. Il fallait être efficace parce que en face, la dualité, enfin le duel qui a été mis en place par Emmanuel Macron a tellement bien fonctionné que les gens ont vraiment voulu, enfin l'électorat de droite a vraiment voulu voter excessivement efficacement. Donc ils sont allés effectivement voter pour Emmanuel Macron, mais de façon à éviter l'arrivée trop forte de Marine Le Pen. Ce que j'aurais rajouté aussi, c'est que ils le vivent comme un véritable coup dur en fait, en tout cas chez les élus de droite ce dimanche soir, parce que ils ont vécu, pour les avoir un peu vus, suivis, écoutés, entendus, une campagne extraordinaire. Ils ont vécu une campagne unie autour de François-Xavier Bellamy. Ils ont aimé ce candidat. La boucle WhatsApp.
C'est pour ça qu'on a vu autant de une, qu'on a vu très cruellement réapparaître sur Twitter à partir de dimanche soir.
Et on disait,
renouveau.
Voilà. Et on disait, vous savez toujours que.
Mais pardon, on l'a sorti d'où ce subitement renouveau, le fait que subitement on avait l'impression que la droite s'était retrouvée. Françoise Fraisseau, d'où ça sortait cette perception
c'est parce que
en fait.
C'était un peu le même effet que la primaire, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à mobiliser leurs militants et après ils ont fait la confusion entre militants et électeurs. Au fond, les militants se sont reconnus autour d'un jeune homme qui était éminemment sympathique et qui avait de la bienveillance. Et les salles étaient pleines. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça a joué aussi sur les leaders qui, tout d'un coup, se sont dit on va se réconcilier autour de lui. Mais, au fond, le militant et l'électeur ne fait pas la même chose. Et l'électeur, il n'a pas eu ce sentiment qu'il y avait un énorme renouveau qui fasse qu'on abandonne Emmanuel Macron pour aller voter Bellamy.
Jérôme Jaffré.
Oui, j'ajouterais simplement que, pour revenir au grand texte, les trois droites de René Raymond, en termes du jour, nous dirions, il y a la droite libérale, la droite conservatrice et la droite bonapartiste. Eh bien, avec François-Xavier Bellamy et la façon dont Laurent Wauquiez mène les Républicains depuis son accession à la présidence, c'est un rétrécissement uniquement sur le segment de la droite conservatrice. Or, la droite organisée politiquement ne peut être forte que si elle fait la synthèse des trois droites. C'était la réussite exceptionnelle de Nicolas Sarkozy, par exemple, en 2007, qui avait unifié ces trois droites. Ça suppose un leader incontestable. Laurent Wauquiez n'est pas leader incontestable. Et ça suppose également des axes idéologiques qui dépassent le conservatisme sociétal, comme on dit maintenant, chez les Républicains, pour dénoncer ce qu'a fait Bellamy. Et là, ça vient même du directeur de campagne de François-Xavier Bellamy, ce qu'il a me paraît être quand même le sommet de l'incohérence et de l'incorrection.
On se dit qu'il a dû être très malheureux, du coup, Geoffroy Didier, pendant cette campagne, si on en croit ce qu'il dit derrière. C'est le sens de l'appel de Nadia qu'on n'arrive pas à voir. Vous avez bien compris qu'il y avait un petit souci au standard, mais qui nous dit la droite d'aujourd'hui parle surtout aux catholiques. Cette dernière campagne était plutôt vers ce certain type de personnes et elle ne s'adressait pas à tout le monde. Est-ce que c'est, Karine Becker, pour revenir à ce que disait au fond Jérôme Jaffré, l'analyse qu'on peut faire, on a oublié de s'adresser aux deux tiers de la droite, au fond.
Oui, non, mais ça, c'est un problème fondamental. C'est savoir quelle ligne politique a cette droite-là aujourd'hui et vers quelle ligne politique elle va pouvoir se diriger. Par exemple, c'est assez amusant depuis deux jours où c'est la confusion totale à droite d'entendre un Guillaume Larrivé, par exemple, ce député de Lyon, qui a toujours été sur un discours très sécuritaire, très identitaire et très conservateur, nous dire que finalement, il faudrait peut-être tenir un discours très pro-business. C'est le grand écart. En sachant qu'à l'intérieur, on a d'autres députés qui veulent une droite beaucoup plus sociale et populaire.
Sauf que le discours business était celui d'Emmanuel Macron, donc du coup cette droite-là est partie, c'est pris. Le discours identitaire, c'est celui de Wauquiez lorsqu'il arrive en se disant j'ai un créneau ici et on voit que ça marche pas. La droite, ce que vous appelez la droite populaire, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
La droite populaire, malgré tout, elle est incarnée par un certain nombre de personnes, mais qu'on entend mal ou peu. Par exemple, Aurélien Pradier, dont vous parliez dans votre introduction, qui est ce jeune député qui essaye de lancer ce comité du renouvellement, par exemple. C'est la droite qui était incarnée, ou en tout cas que voulait incarner Nicolas Sarkozy. Alors ça n'a pas marché en 2016 lors de sa primaire, mais c'est cette droite populaire, sociale, capable de parler à un électorat droite qui n'est pas simplement l'électorat bourgeois et l'électorat conservateur.
Je crois qu'on a retrouvé un standard. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Ah, formidable. Bonsoir. Soyez le bienvenu au téléphone sonne. Merci. Qui reprend le nom de l'émission revient à son juste endroit. Bonsoir Philippe, soyez le bienvenu.
Alors moi, je voulais juste intervenir pour dire que je suis un ancien électeur de droite, plus de 50 ans, socialement inséré et puis sans aucun problème de revenu, mais maintenant je ne reconnais absolument plus dans la droite conventionnelle, enfin dite conventionnelle. Il n'y a plus de courant d'idées, il n'y a plus de trame, et je suis coincé entre les valeurs écologiques et puis la République en marche, bien qu'on ait du mal à définir ce que c'est que le macronisme, mais je sens que la droite, c'est plus mon habitat. Voilà.
Mais alors, ça m'intéresse, Philippe, ce que vous dites, parce que qu'est-ce qui vous manque, en fait, aujourd'hui? Et alors, si je peux me permettre, vous avez voté qui, du coup, vous, aux européennes?
Alors, aux européennes, si vous voulez, je me suis un petit peu lâché, entre guillemets, puisque c'est plus ludique, ça n'a pas de... Enfin, si, c'est important, les européennes, mais si vous voulez, j'ai voté écologiste, d'accord, tout simplement, parce qu'il me semble que... À l'heure actuelle, tous les partis d'ailleurs l'ont embrayé sur ce thème juste avant les élections. C'est l'écologie qui deviendra le thème majeur à venir. Donc, mais l'écologie sous-tend aussi un changement de société. Et je vois pas du tout la droite travailler là-dessus. Donc, au revoir la droite.
Merci beaucoup Philippe pour cette question. Ça revient à ce que je disais, Françoise Fressos, tout à l'heure. C'est quoi être de droite aujourd'hui? Comment on redéfinit ou comment on définit aujourd'hui être à droite? Ça veut dire quoi?
Je pense que c'est extrêmement difficile de le redéfinir dans la mesure où ils se sont vraiment fait manger de tous les côtés et qu'il faudrait faire un effort de redéfinition idéologique très profonde axé sur les grands sujets du moment. Je pense qu'elle souffre aussi beaucoup, la droite, de ce qu'elle a fait dans le passé. Je prends un exemple sur l'écologie. Qui a été en 2007 l'homme qui a compris l'écologie? C'était Nicolas Sarkozy, et quand il convoque le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo. C'est un moment formidable où tout d'un coup on voit les associations, les ONG, les citoyens se saisir du sujet. On retrouve Nicolas Sarkozy quelques années plus tard qui dit tout ça c'était du vent, c'était n'importe quoi. Voilà. Et donc il y a eu, je pense en 2007, une intuition très forte des grands sujets d'aujourd'hui et qui ont été gâchés soit par la crise économique de 2008, soit par le fait qu'au fond Nicolas Sarkozy s'était saisi astucieusement de tout ce qui était l'heure du temps, mais qu'il n'en a pas fait la synthèse et qu'en tout cas au gouvernement il n'a pas réussi durant sa présidence à faire évoluer ça. Et donc la droite s'est fait piller, je pense qu'une partie de la droite populaire s'est fait piller par Marine Le Pen très fortement, et que la droite libérale est aujourd'hui pillée par Emmanuel Macron, et que ce qui reste de cette droite-là va avoir un mal fou à se reconstruire dans la mesure où les deux courants aujourd'hui qui existent sont les courants sur lesquels organise l'affrontement qui est les nationalistes et les libéraux. Et donc, quelle est la place pour cette droite-là? Effectivement, moi je ne la vois pas pour le moment. Et c'est pour ça que mon hypothèse, c'est que ça va devenir un petit parti qui sera peut-être le bout d'une coalition, peut-être aux alentours de 8-10%, mais je ne les vois pas redevenir une grande force d'alternance pour le moment.
Jérôme Jaffray, quand on voit ces... Pardon, allez-y.
Le problème aigu de la droite, immédiat, parce que perdre aux européennes, c'est arrivé à beaucoup de formations. Prenons Nicolas Sarkozy en 1999, il avait pris une raclée à la tête de la liste RPR. Mais le problème pour la droite, c'est que elle est la position de parti dominant pour toutes les élections locales. C'est la droite qui est la plus forte. L'UMP détient les positions dominantes pour les municipales depuis 2014, pour les départementales et pour les régionales. C'est le premier parti local et c'est un premier parti surpuissant dans ce domaine. Donc l'immense inquiétude qui saisit toute la droite, c'est pas seulement que M. Laurent Wauquiez aille mal ou que le parti se porte pas bien, parce que ça on peut se dire bon ben ça va, ça vient. C'est que leur mairie, leur département, leur région sont directement menacées par un parti. J'ai calculé que dans les municipalités des villes de plus de 30 000 habitants détenues par l'UMP, la moyenne de la liste Bellamy, c'est 10% des suffrages exprimés, c'est-à-dire à peine plus
que
la moyenne.
Sauf qu'on est d'accord qu'on ne peut pas plaquer
non,
les résultats
bien
des
entendu,
européennes sur les
chaque maire peut se dire, je vaux beaucoup plus personnellement par mon équation personnelle. Oui.
Et pour mon action.
Mais en fait, si je viens avec l'étiquette, et si on me colle l'étiquette des Républicains, on me file 10 points de moins. Et 10 points de moins, c'est très inquiétant. Donc, nous avons ce problème immédiat qui explique à quel point nous sommes dans une situation de quasi-révolution au sein de la droite la difficulté de se situer par rapport au parti, par rapport aux valeurs, par rapport à La République En Marche, pour tous ces élus, et le fait que Gérard Larcher, tout simplement, se dise que c'est sa présidence du Sénat
exactement.
Qui va finir par tomber si les municipales se portent très mal. Du coup, on a vu Gérard Larcher complètement déchaîné en début de semaine.
On a vu que c'était lui-même qui essayait de maintenir tout le monde à peu près ensemble. Vous l'avez un peu évoqué, Karine Becker, je voudrais revenir juste un instant sur ce comité du renouvellement que souhaitent certains jeunes députés. Moi, je m'interroge, en fait. Ils veulent une nouvelle génération de la droite française. Mais moi, j'ai l'impression, si on s'en tient juste en termes générationnels, mais Wauquiez, c'est la nouvelle génération. Visiblement, ça n'a pas bien marché. Bellamy, c'est la nouvelle génération. Donc, c'est quoi la nouvelle génération dont ils parlent? Parce qu'au fond, elle est là, sauf qu'elle ne trouve pas sa place, ou je me trompe?
Alors, la nouvelle génération, Wauquiez, pas tout à fait. Souvenons-nous quand même que Wauquiez, on le connaît depuis Nicolas Sarkozy, puisqu'il était, il a été son ministre, alors des Affaires européennes et pas seulement, de l'enseignement supérieur également, je crois. Donc, Nicolas Sarkozy, son quinquennat, c'est 2007-2012. Alors, à l'époque, effectivement, Laurent Wauquiez était très jeune, mais ça fait un petit moment déjà qu'il est dans le paysage
et
politique.
Et attendait que les autres s'en aillent pour pouvoir prendre
exactement.
Cette place-là, donc c'est ça
donc,
que ça veut dire quand
il
on
y
parle
est,
de renouvellement, mais effectivement.
Alors, Bellamy me donne plus le sentiment, mais comme les Manon Aubry, les Jordan Bardella, d'avoir été, en quelque sorte, il n'y a pas de méchanceté de ma part, mais les marionnettes de chefs de parti qui étaient juste derrière. Maintenant, effectivement, malgré tout, à l'Assemblée nationale, on a vu apparaître une nouvelle génération de députés, des trentenaires, qui sont des novices, qui découvrent véritablement la vie d'élus. C'est Aurélien Pradier, c'est Julien Dive, c'est Romain Reda, et j'en oublie plein, il y en a une petite dizaine effectivement. Et je trouve que leur initiative, elle est intéressante, parce que certes, on peut simplement se focaliser sur le mot renouvellement, en se disant ça y est, c'est encore à la mode, parce que Emmanuel Macron l'a lancé. Ils ont le bon diagnostic, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que c'est sympa de nous mettre toujours des grandes personnalités, mais ce qu'il faut, c'est des idées.
Nous sommes incapables d'expliquer aux Français pourquoi ils devraient voter en notre faveur, c'est ça qui est
voilà.
C'est quand
et
même
donc,
assez
ils
violent,
disent, il va falloir qu'on travaille avec des intellectuels, qu'on les retrouve, qu'on réfléchisse, et pendant 2-3 mois qu'on retrouve des idées. Je leur dis juste que 2-3 mois, ça va vraiment pas suffire, il va falloir qu'ils s'y mettent au moins 2 ou 3 années, et ils seront sans doute pas prêts en 2022.
Francis, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à vos invités et vos auditeurs.
Soyez le bienvenu, Francis.
Merci. Oui, alors moi je crois que la droite existe, elle s'est simplement recomposée dans un bout de Les Républicains, un bout de LREM, un bout de Rassemblement National. On peut d'ailleurs rajouter aussi certainement un bout de l'UDI, un gros bout de l'UDI, un plus petit bout du Modem, et puis même un sous-ensemble du vote écologiste. Vous verrez que Jadot en 2022 n'existera pas. Lui ou un autre à l'élection présidentielle. Je crois qu'on ne doit pas réfléchir aujourd'hui en droite-gauche, c'est-à-dire en plus ou moins capitaliste contre plus ou moins socialiste ou socialo-communiste. On devrait raisonner, on devra raisonner en plus ou moins nationaliste ou plus ou moins mondialiste. On le voit aux États-Unis, hein, Trump c'est le nationalisme dans toute sa splendeur, voilà, les intérêts du pays. On pourrait dire que Poutine c'est la même chose pour la Russie, on pourrait dire que Orban c'est la même chose, on pourrait dire que Salvini c'est une certaine forme de cette tendance, et idem en Pologne. Et donc je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on oublie droite-gauche, alors peut-être pour un certain moment seulement, je l'espère en tout cas, mais il faudrait qu'on oublie droite-gauche pour se focaliser sur nationaliste ou mondialiste.
Merci Franck pour cette remarque. Françoise Fressos, au fond, on a l'impression de revenir à Emmanuel Macron séparant les élections là entre nationalistes et progressistes. C'est la même chose que dit notre auditeur.
Oui, mais ce qui est difficile pour la droite, c'est que vous regardez toutes les évolutions un peu en Europe sur les droites. Au fond, ça a été d'ailleurs amorcé par Nicolas Sarkozy quand il a été en difficulté dans les années 2010, où il a commencé à mettre l'accent sur effectivement l'identité, la défense de la civilisation, la sécurité, et donc il est allé sur les terrains du Front National et du Rassemblement National. Et en fait, ce qui est assez perturbant pour la droite, c'est que plus ils vont sur ces terrains-là, plus au fond ça sert au parti original qui tient cette thématique. Et donc, la difficulté pour la droite, je suis assez d'accord sur l'écart, entre nationalistes et libéraux, mais la difficulté, c'est qu'à un moment, ça peut bel et bien provoquer une vraie fracture, dans la mesure où je vois mal ce qui peut lier idéologiquement les libéraux et les nationalistes. Donc à un moment, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que, au fond, une fraction de la droite rejoigne le Rassemblement national en disant c'est peut-être une, même pour nous une seule façon de gagner, de redevenir dominant dans le pays, et que l'autre partie, du coup, aille rejoindre complètement les macronistes en disant pour nous c'est inacceptable. Donc je vois pas qu'il y ait une rénovation possible de la droite. Elle est aujourd'hui en tension entre deux pôles qui sont vraiment très concurrents.
Karine Becker ? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Moi, je trouve ça... c'est la petite musique qu'on entend effectivement en ce moment, cette opposition effectivement entre nationalistes et mondialistes ou nationalistes et progressistes. Je trouve qu'il faudrait quand même bien mesurer ce que ça veut dire politiquement. On vit dans une démocratie, l'alternance existera, donc ça veut dire qu'on va finalement mettre dans la tête des gens l'idée que, bah, quand on en aura marre d'Emmanuel Macron et de son progressisme, et bah, finalement il faudra se tourner vers qui ? Vers des nationalistes. Je trouve quand même qu'il faudrait réfléchir à ça, parce que il y a un danger énorme à effectivement vouloir aller aussi loin que là où nous entraîne malgré tout le discours d'Emmanuel Macron. Et c'est intéressant d'observer, quand on va à l'Assemblée, c'était le cas pendant ces deux jours derniers, là, mardi et mercredi, où vraiment, même les députés de la majorité, certains s'inquiètent beaucoup, des gens comme Jacques Maire, des gens comme Barbara Pompili, des députés comme Sonia Crimi. Alors certes, c'est le pôle gauche.
C'est la gauche du macronisme.
C'est le pôle gauche, mais ils ont le droit d'être intelligents, de s'interroger et de se dire qu'il y a peut-être un danger.
Quand on parle... allez-y, Jérôme Jaffray, pardon, vous vouliez intervenir.
D'un mot, je crois qu'évidemment, le piège est là pour la droite de parti, disons, la droite organisée. Le piège est là dans cet affrontement théorique de nationalistes et de progressistes ou de mondialistes. Vous dites, qu'est-ce qu'être de droite? Je cherchais les mots clés qui correspondent normalement à la droite. Je dirais liberté, efficacité, autorité. Et identité n'est pas, d'abord, l'identité est beaucoup plus discutable, parce que les identités sont variables. On voit bien que Emmanuel Macron a pris beaucoup de ces mots pour lui. Liberté, et vraiment liberté économique, liberté sociétale, s'incarne beaucoup plus. Et de ce point de vue, évidemment, François-Xavier Bellamy était un choix de rétraction par rapport à ces notions en partie. Et d'ailleurs, Bellamy n'a pas du tout parlé d'économie, par exemple, dans la campagne des européennes. La notion d'économie lui était totalement étrangère, apparemment. Et l'efficacité, là, Macron était attaquable sur le problème des gilets jaunes, sur le problème de la division du pays, qui est de nature à inquiéter un électeur de droite normalement constitué. Il veut la paix sociale, il veut que on puisse vivre normalement dans le pays et en paix, et que Macron n'est pas sûr qu'il réussisse cela. Or, ce que je constate par exemple, c'est que le vote du Parti de l'Ordre, un peu, a plutôt été quand même vers La République En Marche, dans un vote légitimiste vers le président, qui est une sorte de bouclier contre les désordres, alors qu'il y avait une campagne à faire sur le thème qu'il était en partie la cause des désordres. Il me semble là-dessus que la droite n'a pas su trouver vraiment les angles d'attaque, qu'elle a accepté ce schéma nationaliste progressiste, et qu'en plus du coup, ça la place dans une position très difficile à gérer, parce qu'elle est pour l'Union européenne, dans une situation où, en fait, quand on dit les nationalistes, c'est en partie contre l'Union européenne. Or, la droite est pour l'Union européenne. Donc, elle est constamment prise en étau sur le plan idéologique, sur le plan politique. Son problème, et là, elle pourrait, Karine Becker, faire des choses en 2 ou 3 mois. Vous savez, on peut travailler vite. C'est possible. En 2 ou 3 mois, on peut réfléchir sur un champ conceptuel qui lui permette de sortir de cette prise en étau permanente.
Alors, il n'y a pas la ressource humaine pour réfléchir aussi vite? Pardonnez-moi, je suis pas certaine. Quand on observe ce qu'on observe en ce moment, par exemple, je trouve ça très intéressant. Ça pourrait être l'occasion vraiment d'essayer de très vite remplacer Laurent Wauquiez. On se rend compte que parmi ceux qu'on connaît les mieux, les personnalités, les Barouin, les Pécresse, les Xavier Bertrand, sont pas très pressés malgré tout d'y aller. Et après, dans
pourquoi
la ressource humaine...
Pourquoi? C'est ça la grande question. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas seulement que la crise de la droite dont nous parlons ce soir, vous avez la crise des partis politiques. C'est-à-dire que l'instrument parti politique devient quelque chose qu'il faut absolument... Et éviter si vous avez des ambitions élevées. Ce qui est très inquiétant pour la démocratie.
C'est pour ça que Xavier Bertrand, par exemple, se fait prier, pour aller à la réunion chez Larcher de mardi, parce que
il n'ira pas.
Il fera effectivement le minimum là-dessus, parce que sa stratégie à Bertrand, c'est d'être la solution si les Français ne veulent plus de Macron en 2022 et cherchent quelqu'un. Et à ce moment-là, il faut surtout pas être dans les partis politiques. Mais donc je dis, c'est inquiétant pour la démocratie, parce que les partis politiques ont un rôle utile en démocratie d'organisation de la vie collective, de la vie politique, et que si chacun fait sa petite boutique individuelle en se disant « je veux surtout pas avoir affaire avec les partis », nous allons vers un éclatement, et là, pour le coup, Karine Bécard aura raison, plus personne ne travaille.
Françoise Fressoz, d'après ce que dit Jérôme Jaffré, au fond, on ne peut plus rentrer en politique, ou en tout cas rentrer en candidature sérieuse que à la Macron, au fond, c'est-à-dire sans appareil, ou sinon son propre appareil.
Alors, ça, c'est un des effets de cette espèce de délitement des deux grands partis et de cette crise des partis, et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je trouve que, à gauche d'ailleurs comme à droite, à quel point les leaders disparaissent à une vitesse incroyable et à quel point, or, il faut quand même une bonne dizaine d'années si vous voulez fabriquer un leader, sauf cas exceptionnel de Macron. Mais là, ce que vous dites aussi, c'est qu'à force de se tuer entre eux, ou en tout cas de rater les échéances, il y a une déperdition de leaders absolument incroyable. Hein, quand vous regardez ce qui s'est passé à droite, entre Copé, entre Fillon, là, Wauquiez qui essaye de durer, mais enfin, qui est gravement atteint, vous dites qu'il y a quand même une destruction de valeurs, et à gauche, c'est exactement pareil. Quand vous regardez les deux finalistes de la primaire socialiste, dans quel état ils sont. Donc il y a aussi, je pense, un problème aussi de... Il va se poser un problème aussi de qualité du personnel politique au rythme où la décomposition arrive.
Est-ce qu'il est... Pardon de le dire comme ça. Est-ce qu'il est mort, Laurent Wauquiez, ou est-ce qu'on fait exprès de le maintenir en respiration artificielle? Parce que pour l'instant, effectivement, on ne sait pas qui vient derrière, Karine Bécard.
Pour le coup, ceux qui s'expriment en ce moment, et notamment beaucoup en off, c'est pas si mal que ça qui s'accroche à son siège, parce qu'effectivement, pour l'instant, on ne sait pas qui y mettre. Il y a énormément de gens, par exemple, qui poussent, qui s'entretiennent avec François Baroin, le maire de Troyes, l'ancien sénateur, l'ancien ministre. Enfin, je veux dire, il a un CV extraordinaire. On est face vraiment à un leader, comme disait à l'instant Françoise Fressoz.
Beaucoup les maires, c'est lui. Donc, c'est ce que disait Jérôme Jaffré aussi tout à l'heure. Cette espèce de socle très très local, et le socle des maires, c'est Baroin.
Ouais, voilà. Puis c'est le chiracisme. Et alors, tout le monde me dit qu'il a la tentation de Venise, qu'il n'a pas du tout envie de s'ennuyer avec tout ça. Valérie Pécresse nous explique que c'est très compliqué, en fait. Et puis donc, Jérôme Jaffré en parlait très bien quand il parlait de Xavier Bertrand. Donc, non, il n'y a personne qui a envie de mettre les mains dans le cambouis, parce que finalement, on est aussi face à des gens qui, certes, ont fait leur parcours initiatique pour avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui, mais qui, normalement, devaient beaucoup moins galérer pour obtenir le pouvoir. Or là, ça devient très compliqué, parce qu'il ne faut plus être un leader, il faut être un ordonnateur, il faut accepter de simplement mettre les mains dans le cambouis et puis remettre effectivement des idées sur le tapis. Et je continue à penser que ça ne se fait pas en deux ou trois mois.
Jérôme Jaffré.
Oui, d'un mot, quant à Laurent Wauquiez, il s'accroche évidemment, car Laurent Wauquiez, premièrement, il est jeune. Donc il peut considérer, lui, la vie politique et l'accession à la présidentielle sur 10 ou 15 ans. Il n'y aura plus de Macron à ce moment-là. Il peut se dire... Deuxièmement, son image est catastrophique. Il peut se dire que ça a été le cas de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy dans le passé. Les images, ça va, ça vient, c'est une question, à un moment donné, de dosage politique. Troisièmement, les Républicains, c'est un financement politique considérable. C'est 14 millions d'euros de dotation annuelle, voix et élus qui vont au parti de la droite. Donc vous ne lâchez pas le parti de la droite comme ça. Et pour tous les autres leaders, on ne lâche pas le parti de la droite comme ça, parce que le financement de la vie politique passe par les dotations publiques qui sont liées aux élections et au fait que les députés, les sénateurs sont dans un groupe. Et donc, tenir le parti, c'est aussi avoir les moyens de mener une vie politique. Donc Laurent Wauquiez considère... Et donc l'astuce qu'on va vers laquelle on va, me semble-t-il, de ma fenêtre, et peut-être me trompais-je, c'est que c'est... Il y aura une organisation en dehors du parti pour mener une réflexion et évoluer vers quel type de choses idéologiquement faut-il évoluer, etc. Tout ça peut se faire parfaitement en dehors des partis pour rassurer les élus locaux et leur permettre de préparer dans de bonnes conditions les municipales. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, vous vous accrochez à un parti en attendant des jours meilleurs. Vous savez, Guy Mollet, il a tenu à la tête de la SFIO pendant 23 ans. Et après son passage comme président du Conseil en 1956, il est encore resté 13 ans.
Oui, mais alors ça, Jérôme Jaffré, c'est pas le vieux monde, c'est le très très vieux monde.
Oui, là je reconnais.
C'est une époque triste.
Nous sommes dans un monde que nous-mêmes n'avons pas connu.
Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Franck, on vous écoute.
Merci Fabienne déjà pour vos émissions. Oui, je voudrais savoir s'il y a des exemples en Europe ou dans le monde de d'effondrement de partis comme il y a 2 ans la gauche, la droite là maintenant. Et bien sûr, vous parlez de leaders, à mon avis la politique ce n'est que des leaders puisque c'est Macron qui nous fait tomber la gauche et la droite. Voilà.
Merci Franck pour votre question. Est-ce que quelqu'un sait ça, Françoise Fressos? D'autres exemples
qu'on peut constater dans les résultats des élections européennes, si on se limite à l'Union européenne, c'est assez intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez quand même un déclin des grands partis, des grandes formations qui ont structuré le Parlement européen au profit de la montée des Verts, donc une vague écologique qui, à mon avis, est en profonde résonance avec l'attente de l'opinion publique et notamment des jeunes. Et puis on voit aussi un centre plus, si vous voulez, plus structuré, plus fort, parce qu'il y a quand même partout en Europe aussi cette espèce de clivage qui monte entre nationalistes et libéraux, entre populistes extrêmes et libéraux qui défendent. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui est important dans ce résultat des élections européennes et qui peut donner une dynamique à Emmanuel Macron, c'est qu'au fond, l'intuition qu'il a eue en France peut aussi un peu se propager en Europe. Et donc, ça valide une partie de son raisonnement et ça le remet en situation, y compris sur la scène européenne, pour essayer de peser en disant on ne peut pas continuer comme avant, et il faut faire de nouvelles majorités, il faut définir de nouvelles thématiques. Et c'est là aussi, là je reviens toujours, moi, je pense que ça met en difficulté la droite parce qu'il est lui, il fait lui l'effort, peut-être aussi avec les écologistes, d'essayer de réinventer quelque chose de qu'on n'a pas vu pour le moment sur des nouvelles thématiques, et que les autres sont dans un monde ancien et qui sont un peu toujours à essayer de se mettre à la remorque, et ils ont beaucoup de mal à anticiper quelque chose qui pourrait faire contrepoids.
Jérôme Jaffray, rapidement avant qu'on retourne au standard.
Ce qui est intéressant sur les affaires européennes, c'est qu'on voit bien que la position de Macron est une position de plus en plus clairement anti-Merkel sur le plan de la politique. Il s'agit de réduire l'influence du parti PPE, du Parti conservateur européen, qui tient à la droite, qui est le parti de Merkel, qui veut distribuer largement les postes. Et Macron, d'habitude, on avait un partage franco-allemand. Là, on est dans un autre cas de figure. Pour répondre précisément à la question de Franck, quand même, des partis qui disparaissent, oui, ça arrive ailleurs. L'Italie, la démocratie chrétienne s'est effondrée. La Grèce ou l'Allemagne, le Parti socialiste grec ou le Parti socialiste, le SPD allemand, est à 15% des voix, dépassé par les Verts à 21%. Et c'est un effondrement parce que l'Allemagne était structurée par les conservateurs et les socialistes, ceux démocrates du SPD, c'est un effondrement. Donc les partis sont bel et bien mortels, effectivement. Et ce qu'on constate, les études, par exemple, de Pierre Martin sur les partis de gouvernement, ont montré que c'est un phénomène structurel. Les partis de tradition socialiste ou démocrate chrétienne, devenus conservateurs, qui menaient le bal et qui organisaient une sorte de bipartisme, de bipolarisation politique en Europe, reculent considérablement au fur et à mesure du temps. Sur 20 ou 30 ans, ils ont perdu une partie importante de leur influence.
Allez, François-Xavier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
François-Xavier.
Oui, absolument.
Oui, mais pas Bellamy. Oui, bon,
pas Bellamy, on okay, est bien d'accord.
Non,
juste pour être sûr, non, allez-y.
Bonsoir. Oui, j'ai voulu réagir. Non, merci pour votre émission, il paraît qu'on fait ça. J'ai voulu réagir avec un auditeur puis, qui a parlé un peu avant moi, qui disait qu'un auditeur de droite, hein, qui avait dit qu'il s'était lâché, que cette fois-ci, il avait voté écolo, parce que il n'avait pas... il avait voulu...
Il retrouvait plus sa place à droite.
Il ne croyait plus à droite. Oui, il trouvait plus sa place à droite. Alors, je veux dire que, oui, bon, alors effectivement, pour ce qui concerne le Parti des Républicains, oui, effectivement, ils ont du gros souci à se faire, mais c'est un peu normal. Ils ont choisi comme ligne de conduite, ils ont choisi la droite moisie. C'est assez rigolo parce que Laurent Wauquiez, son équipe, n'arrête pas de vanter 3 valeurs qui sont le travail, la famille et la patrie, et en même temps, ils se déclarent des héritiers du gaullisme. Ils ont dû oublier que De Gaulle défendait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Enfin bon, ça c'était juste une introduction. Mmh. Ainsi
ou un aparté alors, peut-être.
Ou un aparté. L'autre truc, ce même auditeur disait qu'il n'y avait pas d'autre choix pour les scrutins à venir que de choisir entre le nationalisme
Et mondialisme, comment il appelait ça ? Il a divisé mondialisme.
Voilà. Ouais. Voilà, mondialisme et nationalisme. Moi, je crois que non, il faut pas que le clivage, il faut que le clivage ne soit pas là. On va avoir le choix, oui, entre le nationalisme peut-être, le nationalisme teinté de capitalisme, ou capitalisme teinté de nationalisme, et l'écologie. Le capitalisme industriel, dans un premier temps financier, d'abord, nous a conduit la planète dans le mur, a conduit tout le monde vivant dans le mur. La seule solution de réparer les dégâts qui sont encore réparés, ou d'arrêter le processus, c'est le vote écologique. Donc la prochaine fois, je ne sais pas qui sera le candidat. Est-ce que ce sera Jadot ? Est-ce que ce sera Macron qui se sera converti dans les 2 ans qui lui restent, ou 3 ans qui lui restent, à une véritable conviction écologique ? J'y crois pas trop, j'y crois même pas du tout. Mais en tout cas, l'avenir de notre société, de l'Europe et de l'humanité, elle est dans l'écologie.
Merci beaucoup François-Xavier. Est-ce que c'est ça le nouveau clivage ? Est-ce que ça peut être ça, François Fressos, le nouveau clivage, on va dire, nationaliste, écologique ? Je ne sais pas si on dit nationaliste ou en tout cas écologique et les autres.
Alors, l'écologie, ça prend une importance très forte. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est quand même un thème assez consensuel. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une opposition anti-écologique et écologique, parce que au fond vous regardez tous les programmes des partis, tout le monde s'est mis au vert et Jadot a réussi parce qu'il semblait le plus le plus sincère dans ce combat. Donc structurer un combat anti ou contre écologique, j'y crois pas, mais en revanche je pense que ça va devenir une thématique essentielle, que ça va imprégner tous les projets et que le gros sujet au fond c'est de savoir est-ce que c'est de l'écologie ou est-ce que ça va rester de l'écologie politique ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être aussi un courant de pensée en disant on remet fondamentalement en cause le libéralisme ? Moi, j'en suis pas sûre. Je pense que ça va plutôt irriguer tous les partis et tout le monde va s'y mettre en disant il faut quand même faire de la transition.
C'était la question suivante que j'allais poser. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion quand même où on a l'impression qu'il y a en gros capitalisme contre écologisme ? Mais est-ce que c'est pas faire un contresens sur ce que sont les partis écologiques aujourd'hui ? Qu'est l'écologie politique ? On était en Europe tout à l'heure, on en parlait, l'écologie à l'allemande par exemple, est un parti très centriste qui ne se départira jamais d'un côté très capitaliste, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas, Jérôme Jaffray, un contresens aujourd'hui de la part de beaucoup d'électeurs sur ce qu'est l'écologie politique en
fait ? C'est possible, parce que la véritable opposition, me semble-t-il, c'est entre la croissance économique telle que nous la vivons et nous la pensons depuis plus d'un demi-siècle, et l'écologie. Parce que l'écologie appelle une nouvelle conception du développement économique, du développement social, un autre mode de vie pour les habitants. Et là, soyons francs, c'est très bien de verdir les projets, la difficulté c'est de passer aux mesures. Et on l'a vu avec l'affaire des Gilets jaunes au départ. Voilà une mesure écologique parfaite qui consiste à dire le pouvoir avait lu les sondages, ben oui, effectivement, il faut taxer les activités polluantes. Sauf que dans la tête des électeurs, taxer les activités polluantes, c'est les gros. C'est les avions, les yachts, voilà, c'est pas ma petite voiture que j'utilise pour aller au travail parce que j'ai pas le choix et que je dois faire 40 km tous les jours. Là, vous pouvez pas faire ça. Donc, ça devient extrêmement difficile quand on rentre. L'un des problèmes posés par l'écologie, là, on sort. D'abord, c'est l'erreur historique de la droite que Françoise Fressos rappelait et Karine Bécard il y a un instant, qui est d'avoir gommé complètement ce thème pendant tant et tant d'années en l'ignorant et en croyant, enfin la formule célèbre de Nicolas Sarkozy, l'environnement ça commence à bien faire, alors bon, évidemment avec ça on va pas avancer. Et le problème c'est, est-ce que c'est les électeurs ont voulu exprimer un message dimanche avec le vote écologique ou est-ce qu'ils ont voulu construire une force ? C'est deux choses radicalement différentes. Si c'est un message, ça veut dire chacun doit le prendre en considération et la droite pour répondre à sa crise doit évidemment l'intégrer. Si c'est une force que les électeurs ont vraiment voulu construire, alors là le paysage politique peut être modifié.
Allez, il nous reste très peu de temps, je voudrais qu'on écoute David. Bonsoir David.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, allez-y.
Merci. Oui, donc je vous entends parler de la droite qui est prise entre les nationalistes d'un côté, les libéraux ou les progressistes de l'autre. Mais il me semble qu'on parlait souvent, enfin à une époque on parlait d'un troisième courant qui était un courant gaulliste. Et là je voulais savoir, mais est-ce que ce courant a disparu ou alors est-ce qu'il est maintenant suranné ou est-ce qu'il peut réapparaître? Voilà.
Merci David pour votre question. Françoise Fressot, ce qu'est devenu le gaullisme?
Alors, je pense que le courant gaulliste, la grande force du général de Gaulle, c'est d'avoir, au fond, il avait eu pour lui, à un moment, les milieux populaires, l'électorat populaire. Et c'est ça, c'est, je pense que c'est pour ça qu'au fond, tout le monde a continué.
D'un mot, Françoise, 45% des ouvriers au premier tour de la présidentielle de 65 votaient pour le général de Gaulle.
Et donc, ça donnait à ce mouvement une assise populaire que la droite, aujourd'hui, n'a absolument plus et qu'elle cherche désespérément et qu'elle n'arrive pas à rétablir parce que c'est, au fond, Marine Le Pen qui a vraiment fait l'OPA sur cet électorat-là. Donc, je pense que où est passé le gaullisme je pense il est passé en partie chez Marine Le Pen aujourd'hui.
Mais pardon de dire ça comme ça, mais est-ce que c'est encore vendeur de vendre du gaullisme quand on est de droite? Ça parle à qui aujourd'hui de se réclamer d'une droite gaulliste?
Ah, ça pour le coup,
Karine Becker.
Je pense que là vous faites une erreur. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de gens dans l'électorat de droite, qui n'est pas un électorat toujours excessivement jeune en plus, qui au contraire se...
Ça parle à cette partie-là de l'électorat de droite.
C'est quand même... Moi, je me souviens par exemple de la campagne de François Fillon, qui n'est pas si lointaine, en 2017. La référence au général de Gaulle était quasiment tout le temps permanente. Ouais. Et il s'était même permis de dire est-ce que le général de Gaulle pourrait se permettre d'être mis en examen?
Enfin,
on l'accepterait pas. Donc, cette image-là à droite, elle est quand même encore très prégnante, je crois, au contraire.
Eh bien, merci à tous. Ce sera le mot de la fin. Merci mille fois. Merci pour vos appels. Et Dieu sait que vous avez eu du mal à arriver jusqu'au standard ce soir. Merci à tous et portez-vous bien.